Chapitre 8. À la fin de ces 3 années, une ère nouvelle commença pour Catherine. Un monde nouveau s'ouvrit devant elle. Elle apprit à lire. Depuis longtemps déjà, elle désirait acquérir cette belle science, généralement peu répandue à cette époque. Elle voyait sans cesse à l'église les missels et les bréviaires dont se servaient les dominicains, et plus d'une démentait l'athée. Possédait sans doute un livre de prière pour lire le Fils divin dans la Capella della Volte. L'une de ses sœurs, peut-être Alessia Sarazzini, appartenant à une noble famille, par conséquent instruite, et celle que l'on nomme la première parmi les amies de Catherine, lui procura un alphabet, et la jeune fille, âgée de près de 20 ans, se mit à apprendre ses lettres dans la solitude de sa cellule. Les progrès étaient lents, et après plusieurs semaines de vains efforts, il lui sembla en être toujours au même point. Elle s'adressa alors à Jésus. « S'il te plaît, Seigneur, que je puisse lire l'office et chanter tes louanges à l'église, viens à mon aide. Mais si ce n'est point ta volonté, je resterai bien volonté dans mon ignorance actuelle, lui dit-elle. » dans sa prière. Dès cet instant, les progrès furent rapides et Catherine réussit enfin à lire couramment. Souvent, néanmoins, elle devinait plutôt qu'elle ne lisait, car, affirme Raymond, quand on la priait d'épeler ce qu'elle venait de lire, elle en était incapable, connaissant à peine les lettres. Cette remarque met en lumière la nature de la science de Catherine, qui était purement intuitive et nullement raisonnée. Toute poésie, tout art psychologique sont fondés sur cette clairvoyance intuitive, cette vue profonde qui découvre la vérité sans pouvoir en fournir les preuves. Un grand poète est rarement un penseur, ce qui d'ailleurs n'empêche nullement le poète de découvrir ce qui est caché au penseur. Très souvent, on trouve aussi ce génie intuitif à côté d'un faible don de logique chez les grands inventeurs et les grands innovateurs. Et n'arrive-t-il pas qu'une langue étrangère que l'on ne possède qu'imparfaitement peut, en de graves circonstances, devenir si parfaitement claire et familière que l'on a ensuite l'impression d'avoir parlé dans sa propre langue ? Quelles qu'en fussent les causes, Catherine pouvait lire à présent et y consacrait des heures entières. Ses lettres témoignent d'une connaissance approfondie de l'Évangile et des épîtres de saint Paul. L'apôtre mystique et extatique possédait bien le génie propre à l'enthousiasmer. Elle parle volontiers de lui en l'appelant « il glorioso Paolo » ou « questo in amor rato Paolo ». Mais le bréviaire était tout particulièrement sa lecture préférée. Dans les psaumes, les hymnes et les légendes des saints, son esprit et son cœur trouvaient toujours un aliment nouveau. Elle avait pour certaines prières une prédilection toute spéciale, entre autres pour le verset qui commence chaque heure. « Mon Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. » Il arrivait souvent, rapporte Caffarini, qu'elle dit avant de se mettre à prier « J'ai péché, Seigneur, aie pitié de moi !» Parole qu'elle devait répéter sans cesse sur son lit de mort. Catherine suspendit au-dessus de sa couche une petite feuille de papier portant ce verset « Accorde la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort et que mon ennemi ne puisse pas dire « J'ai remporté la victoire !» Elle savait ce que c'était que de combattre contre l'ennemi. Le bréviaire lui procura aussi de célestes relations. Elle y fit connaissance de tous les grands chrétiens déjà morts, des martyrs et des vierges vêtues de blanc, qui, au-delà du fleuve de la mort, se tiennent devant le trône de l'agneau. Sainte Marguerite, Sainte Agnès, Sainte Agathe, Sainte Lucie. « J'ai trouvé une nouvelle et bien belle lumière », écrit Catherine dans une de ses lettres, faisant un jeu de mots sur l'analogie qui existe entre Luce, lumière, et Lucie. C'est cette douce Vierge romaine, Sainte Lucie, qui nous l'envoie. Nous prierons Madeleine aimante et aimable entre toutes, de nous inspirer cette profonde haine de nous-mêmes qu'elle ressentait. Et Agnès, qui est un agneau, agnello, autre jeu de mots, de mansuétude et d'humilité, nous obtiendra ses vertus. Voici donc que Lucie nous donne la lumière, Madeleine la haine de nous-mêmes et l'amour de Dieu, et Agnès l'huile de l'humilité pour entretenir notre lampe. Le souvenir de ces lectures lui revenait en mémoire durant ses visions qui continuaient toujours. Les visiteurs célestes ne venaient plus seulement la trouver dans la solitude de sa cellule et dans le jardin obscur, sur la terrasse, mais encore dans la rue et à l'église. Un jour qu'elle avait le cœur affligé, Saint Dominique l'accompagna de l'église chez elle en la consolant et en la réconfortant. J'en fus si heureuse, confia plus tard Catherine à son confesseur, que j'aurais volontiers consenti à mourir sur le champ pour partager aussitôt avec lui la félicité éternelle. Une autre fois, absorbée par une longue prière et méditant le mystère de l'humanité sainte de Jésus dans l'église San Domenico, son âme fut inondée de lumière. Elle comprit clairement que Jésus était plus qu'un homme et que son être contenait la plénitude de l'amour, de la bonté, de la clémence, de la douceur et de la félicité. Elle se désolait de ne pas trouver de mots pour rapporter ce qu'elle avait vu ainsi et de ce qu'il lui était impossible de dépeindre la beauté et la majesté de la face de Dieu et d'être obligée de se contenter de ces misérables expressions « Il est le bien, il est le vrai et suprême bien ». Il n'est donc nullement surprenant qu'un jour Catherine confessa à Fran Tommaso « Je ne puis converser avec des créatures mortelles, car je sens mon Sauveur m'attirer sans cesse à lui. » Oui, souvent elle paraissait distraite et comme enivrée au milieu des autres. Souvent aussi elle avait l'impression de planer, ainsi qu'autrefois dans son enfance. Souvent elle se promenait les yeux fermés comme une somnambule. Et pourtant, elle ne heurtait jamais du pied contre une pierre, car le Seigneur l'accompagnait toujours. Visiblement, parfois, comme ce bienheureux jour où, lisant son bréviaire en marchant de long en large dans l'église, elle s'aperçut que quelqu'un se trouvait à ses côtés et que c'était Jésus, ainsi que deux jeunes clercs qui récitent ensemble leur office, le Sauveur et Catherine marchèrent longtemps côte à côte sur le carrelage de briques de la chapelle. La jeune Vierge prononçait les mots latins avec un respect indicible. Elle les entendait à peine à cause des battements de son cœur. Et à la fin de chaque psaume, quand venait le verset « Gloire soit au Père et au Fils », etc., elle modifiait les paroles et s'inclinant profondément vers Jésus, elle disait en tremblant « Gloire soit au Père, à toi et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et maintenant et toujours » et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Catherine aimait Jésus avec toute la passion dont une femme est capable, jusqu'au don total d'elle-même. Un homme peut aimer Jésus comme un frère aîné, comme un ami très cher, comme un père bien-aimé auquel on ne désobéirait pour rien au monde. Mais une femme aime Jésus comme son époux, comme celui auquel sa vie est consacrée. Me voici. « Prends-moi, je suis tienne, fais de moi ce qu'il te plaira. »« Tu sais que tu es épouse, » écrivait une fois Catherine à une religieuse de Pise, « et que Jésus t'a épousée, non pas avec un anneau d'argent, mais avec l'anneau de sa chair, car au jour de la circoncision, il lui fut précisément enlevé la valeur d'un anneau de son très saint corps. » Catherine n'ignorait pas ce qu'est l'amour terrestre. Elle en parle avec la plus grande simplicité et la plus grande pureté. « L'homme ne peut pas vivre sans amour, » dit-elle dans une de ses lettres, « car l'homme a été créé par amour. Ce fut l'amour du père et de la mère qui donna l'être et la vie à un enfant. » Mais pour Catherine comme pour saint Paul, cet amour conjugal n'est que le symbole d'un amour supérieur, du grand sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église, de Jésus et de l'âme. Et de même que dans le mariage idéal, le degré de cette union dépend de l'harmonie des cœurs et de l'unité des volontés, qui finalement transforme celui qui aime à la ressemblance de l'être aimé, qui communique de plus en plus l'Esprit de Jésus à l'Église et rend les chrétiens de plus en plus semblables à lui. Cet amour, lui aussi, a ses prémices et sa consommation, ses baisers, ses étreintes, ses fiançailles et ses noces. C'est en raison de ceci que le Cantique de Cantiques fait partie des livres saints de l'Église et que Lacordaire a pu dire « Il n'y a pas deux amours, l'amour céleste et l'amour terrestre sont un même sentiment, à part cette différence que l'amour céleste est infini. » Si quelqu'un à ce propos veut parler de sensualité réprimée, nous répondrons que ce sont le plus souvent ceux-là même qui se scandalisent de la sensualité réprimée, qui n'ont pas d'objection contre la sensualité déchaînée. Catherine lisait le Cantique des Cantiques avec tout son cœur de femme, et sans cesse elle répétait le gémissement de la Sulamite « Qu'il me baise du baiser de sa bouche !» Encore, n'osait-elle pas réclamer davantage et formuler le souhait brûlant « Que sa main droite passe sous ma tête et que sa main gauche m'embrasse !» Mais elle désirait ardemment le baiser comme donne l'époux à son épouse. Un jour, raconte Caffarini, tandis que Catherine priait dans sa cellule, sans pouvoir se rassasier de répéter les gémissements d'amour de l'épouse du Cantique, Jésus lui apparut et lui donna un baiser qui la combla d'une douceur indicible. Elle s'enhardit alors jusqu'à le prier de lui enseigner ce qu'elle devait faire pour ne lui être jamais un seul instant infidèle et toujours lui appartenir de cœur, d'âme et d'esprit. Ceci exprime clairement quelle est l'essence même de l'amour mystique. Et Caffarini continue. Parfois, il semblait à Catherine qu'elle reposait dans les bras de Jésus et qu'il la pressait contre son cœur. Si elle en avait été trouvée digne, c'est que, méprisant les vulgaires joies de ce monde, elle n'aspirait qu'à recevoir la grâce divine en abondance. Mais surtout, elle priait le Seigneur de lui accorder un véritable et sincère charité à l'égard du prochain, une charité si parfaite que désormais elle put se réjouir davantage du bien qui lui adviendrait que de son propre bien et de s'affliger davantage des souffrances et des chagrins d'autrui que de ses propres peines. « Épouse-moi dans la foi, » demandait-elle alors avec instance au Seigneur. Et il vint le jour si longtemps attendu des noces mystiques de Catherine Benincasa. C'était un mardi de l'année 1367, le dernier jour du carnaval, le Mardi Gras. Sienne était en pleine effervescence. Les masques fourmillaient dans les rues. On entendait des cris, des rires, des chansons, accompagnés d'accords de mandoline et de baisers folâtres. Les Siennois s'entendaient à se divertir. Dans la Via Garibaldi, en face de la Via Magenta, s'élève encore la Consuma, c'est-à-dire la maison où se réunissait au temps de Catherine la jeunesse dorée de la ville, la brigade dépensière qui trouvait moyen de gaspiller 200 000 florins d'or en l'espace de 20 mois seulement. Y eut-il jamais homme plus léger que les Siennois ? Interrogeait Dante scandalisé. Il les connaissait bien pour avoir été l'un des leurs au Palio, la grande fête de l'été. Il avait pris part à leur festin et goûté de leurs mets les plus délicats, du délicieux gibier farci d'œillets et de bien d'autres gourmandises. Mais les joies du carnaval n'avaient point accès dans la chambre obscure et solitaire de la Via del Tiratoia. Catherine était seule dans la maison. Tous les autres membres de la famille s'amusaient au dehors. Et peut-être dans la solitude, la jeune fille a-t-elle éprouvé ce que les chrétiens moins affermis connaissent si bien, le sentiment soudain que le monde de la foi se décolore et pâlit, ainsi que la flamme des cierges à la lumière du soleil s'évanouit et devient irréelle et absurde en face de l'évidence des puissantes et chaudes réalités de la vie. Qu'il me baise du baiser de sa bouche. Oui, mais là, dans la rue, à 20 pas d'ici, au milieu du tourbillon du carnaval, Il y a quelqu'un qui, sans plus de façon, te prendrait par la taille pour te faire danser toute la nuit, qui t'offrirait du vin doux, d'Orvieto ou de l'Asti-mousseux, et qui t'embrasserait volontiers autant que cela te fera plaisir. Puis, l'aube venue, tu prendrais congé de lui, les yeux humides, et passant les bras autour de son cou, tu lui donnerais un dernier baiser en guise de remerciement et de définitif adieu. Peut-être cette image se présenta-t-elle à l'imagination de Catherine comme un dernier appel de la vie mondaine. Nous l'ignorons, mais nous savons qu'en ce jour de carnaval, elle pria avec ferveur, redisant sans cesse « Seigneur, augmente ma foi ». La vie chrétienne tout entière, l'abnégation, les œuvres de miséricorde, découlent de la foi. Elles y sont soudées, comme l'était le globe terrestre et tous les dieux retenus par la chaîne d'or que tient Zeus dans sa main toute puissante. Car à quoi me sert-il qu'il soit bon d'être chrétien si le christianisme n'est pas vrai ? Ni l'esthétique, ni le pragmatisme ne viennent ici à l'appui. Si le Verbe ne s'est pas fait chair, et si la Vierge ne l'a pas enfanté, ainsi que carillonnent les cloches de l'Angélus quand le ciel devient d'or derrière les noirs cyprès italiens, il faut, hélas, que ces cloches se taisent, ou bien que l'on sache qu'elles ne rendent plus qu'un son naturel, comme le chant des oiseaux ou le gémissement du vent dans les feuillages des oliviers. La vérité est le don le plus précieux fait à l'humanité, et nul n'a le droit de la trahir à cause d'une impression d'esthète. Nous ne pouvons pas imiter les rhéteurs et les poètes païens qui, dans les derniers siècles de l'Antiquité, avaient la passion poétique des temples désertés. Nous ne devons point partager l'erreur des rois et des empereurs qui maintenaient la religion parce qu'ils la croyaient indispensable au peuple. Pour toi, pour moi, pour le peuple, il n'y a de nécessaire que la vérité. L'affirmation la plus nette du Christ, c'est qu'il est la vérité. S'il ne l'était pas, comment pourrait-il nous sauver ? Sans une pleine conviction à ce sujet, il n'est pas de vie chrétienne possible. À tous les moments décisifs, à tous les carrefours de la vie, le doute surgirait. Ce que je crois est-il assez vrai pour que je risque de conformer mes actions à ma foi ? Partant d'une demi-croyance, nul ne peut agir pleinement. Mais le Seigneur, dit Caffarini, avait décidé de se servir de Catherine comme d'un instrument pour le salut de beaucoup d'âmes égarées. Il fallait par conséquent qu'elle fût inébranlablement affermée dans la foi, comme la maison sur le roc. Et c'est pourquoi, en ce jour de carnaval, Catherine ne cessait d'implorer « Seigneur, accorde-moi la plénitude de la foi. » Catherine priait, et sa prière fut ainsi exaucée. « Puisque, par amour pour moi, tu as renoncé à tous les plaisirs du monde et ne veux te réjouir qu'en moi seul, lui dit le Seigneur, j'ai résolu de t'épouser dans la foi et de célébrer solennellement mes noces avec toi. » Et tandis que le Seigneur prononçait ces paroles, voici qu'apparaissait sa sainte mère, saint Jean l'évangéliste, saint Paul et le prophète David, et Marie plaça la main de la jeune fille dans celle de son fils, tandis que David jouait de la harpe. Jésus tendit alors un anneau d'or qu'il passa au doigt de son épouse. « Moi, ton Créateur et ton Sauveur, dit-il, je t'épouse aujourd'hui et te fais don d'une foi qui ne fléchira jamais et sera préservée de toute atteinte jusqu'au jour où nos noces seront célébrées dans le ciel. Ne crains rien, étant revêtu de l'armure de la foi, tu triompheras de tous tes ennemis. » Puis la clarté céleste s'éteignit et les formes rayonnantes s'évanouirent avec les derniers accords de la harpe de David. Mais dans l'obscurité de la cellule, l'anneau des épousailles étincelait au doigt de Catherine. Elle le porta à ses lèvres et le contempla avec ravissement. C'était un anneau d'or, sertissant un grand diamant entouré de 4 petites perles. Le dur diamant de la foi que rien ne peut entamer, les perles de la pureté d'intention de pensées, de paroles et d'actions, comprit-elle. Désormais, Catherine porta toujours son anneau nuptial, mais il n'était visible que pour elle, et par intervalles disparaissait à ses yeux lorsqu'elle avait offensé son seigneur et son céleste époux, soit par une parole un peu vive, soit en jetant un regard frivole sur quelque objet mondain. Alors elle pleurait amèrement son infidélité et confessait sa faute, et dès qu'elle sortait du confessionnal, l'or, le diamant et les perles brillaient de nouveau d'un vif éclat sur sa main.